Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 74 de Jaf Tamer sur RLP. Jaf Tamer, l'émission de la famille contemporaine via le regard des pères. Aujourd'hui, la seconde partie de l'interview du docteur Joël Monzé, docteur en neurosciences en Amérique du Nord, au Québec, où nous verrons tout d'abord quelles sont les conséquences du divorce de masse sur la construction des enfants lors des séparations dans la petite enfance. Y a-t-il des conséquences biologiques, physiologiques, par rapport au stress, à l'angoisse et à l'insécurité sur le développement du cerveau de l'enfant ? Nous regarderons ensuite que penser de ces théories qui disent que n'importe qui peut être le père, les problèmes de l'attachement et autres. Et nous conclurons par les bienfaits générés par les pères d'aujourd'hui qui s'impliquent plus dans la petite enfance que ne le faisaient leurs ancêtres. Voilà, ce sera la deuxième émission d'une série de trois, avec tout d'abord quelques actualités. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP,
Radio Libre en Périgord.
Rencontre avec les élus de l'association Égalité Parentale, après effectivement une période un peu compliquée parce que c'est l'été, il y a la crise sanitaire et autres. Mais bon, le 22 septembre, nous avons rencontré Yannick Kerlogo, député LAREM des Côtes d'Armor de Savoie. C'est un député très convaincu par la justesse des revendications sur la résidence alternée et l'égalité parentale. Il est transparent et pragmatique. Il nous partage que les niches parlementaires de LAREM sont très remplies et que notre proposition de loi a plus de chances avec un groupe plus petit. Bon, on a essayé avec le MoDem, mais bon, ça a été compliqué. Il va échanger avec certains des 42 députés de l'AREM qui sont déjà acquis à notre cause et déjà rencontrés pour la plupart. Mais enfin bon, ça fait des années qu'on vous dit que dans cette législature, ce sera compliqué. Je pense vraiment qu'il va falloir attendre qu'au niveau législatif, les députés changent, que l'on redémarre une législature de 5 ans pour recommencer un lobbying. Je pense que sous la présidence Macron, en tout cas, nous n'aurons certainement pas gain de cause pour quoi que ce soit. Au niveau presse, il faut signaler une tribune dans le Figaro. Un enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. Et n'oublions pas l'événement spectaculaire pour le droit des enfants qui a été symbolisé le 4 septembre 2021 par une grimpe place Vendôme à Paris avec deux pères qui ont escaladé la colonne Vendôme devant le ministère de la Justice pendant que des mères, des pères, des grands-parents occupaient la place pour interpeller le ministre de la Justice sur l'inégalité parentale et le faible nombre de résidences alternées. En effet, 20 ans après la loi soutenue par Ségolène Royal, aucune évolution pour l'égalité parentale après une séparation. La France est en retard par rapport à l'Europe. Le ministère de la Justice reste sourd. Et pourtant, chaque année, ce sont 60 000 enfants supplémentaires qui deviennent, disons-le, des orphelins d'un parent vivant, qui sont coupés d'un de leurs parents, qui devient soit totalement absent, soit papa pop-corn, 4 jours par mois pour aller au cinéma et manger des bonbons et rien d'autre.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3. La semaine dernière, nous étions avec Joël Monzé, docteur en neurosciences, que nous retrouvons encore aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons parler effectivement du sujet centre de l'association et de l'émission. On va vous demander, monsieur Monzé, là, de votre observation au niveau biologique, fonctionnement interne, comportemental, quelles sont les conséquences du divorce de masse sur la construction des enfants ? Je veux dire par là que nous, en Occident, depuis 30 à 40 ans, nous avons, on va le dire, une société de recomposition. On se compose et on se recompose. Certaines personnes ont divorcé plusieurs fois, se sont mariées plusieurs fois, et nous avons un très 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 grand nombre de personnes qui sont issues de parents qui ont été séparés, on va dire. Que signifie pour un petit enfant d'avoir les enfants qui se séparent autour de lui ? Est-ce que ça a vraiment des conséquences dans son intérieur ?
Oui, il va y avoir des conséquences. Et ça va surtout dépendre, en fait, l'ampleur des conséquences vont surtout dépendre de la qualité de relation que le père et la mère vont être capables de pouvoir maintenir. Les enfants n'ont pas nécessairement d'angoisses qui sont dues à des choses logiques comme celles que vous et moi, nous pourrions avoir aujourd'hui face à la vie de tous les jours. Notre rationnel, notre intelligence, notre manière d'analyser les choses, on est capable de pouvoir déterminer clairement, en fait, éventuellement, ce qui peut nous amener à vivre des angoisses. Chez un enfant, ce n'est pas du tout la même chose. Surtout quand il est jeune, c'est beaucoup plus l'environnement affectif qui va être anxiogène ou pas. Donc, c'est l'ambiance, c'est l'impression qui va faire en sorte que le jeune va avoir ou ne va pas avoir de séquelles dans une situation quelle qu'elle soit. Dans le cadre d'une séparation entre papa et maman, c'est certain que pour l'enfant, papa et maman sont les deux personnes qu'il aime le plus. Même si papa et maman ont des défis, même si papa et maman peuvent parfois avoir des comportements inacceptables, ça reste quand même que pour l'enfant, papa et maman sont les deux personnes qu'il aime le plus jusqu'au jour où lui-même va avoir des enfants. D'accord? Peut-être éventuellement un amoureux ou une amoureuse au passage, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Alors même quand ça se passe bien entre le père et la mère, le simple fait d'avoir deux maisons, d'accord, fait en sorte que oui, on y gagne sur un plan, parce que si papa et maman sont divorcés, c'est que les valeurs ou la manière de vivre ou les événements faisaient en sorte qu'il n'y avait plus d'entente possible, et parfois il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage, d'accord? Je ne voudrais pas encourager les gens à vivre ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents vivaient, c'est-à-dire de se retrouver dans des couples qui, pendant 5 ans, 60 ans, sont dysfonctionnels sur le plan affectif.
Il y a le pour et le contre, ça dépend du degré de dysfonctionnalité peut-être. Mais bon,
tout à fait, exactement.
Tout à fait.
Mais il y a beaucoup de femmes qui, parce qu'elles n'avaient pas de moyens financiers, étaient obligées de rester avec un conjoint qui n'était peut-être pas toujours le conjoint idéal. Donc, c'est cet aspect-là. Donc, quelque part, le divorce est une chose, d'un point de vue social, utile. Donc, si papa et maman s'entendent bien, à ce moment-là, il y a une certaine cohérence entre les deux maisons. Le seul problème, c'est que pour l'enfant, quand il était avec maman, même si maman est extraordinaire, papa y manque. Quand il est avec papa, même si papa est extraordinaire, ben, maman manque. Donc, les enfants doivent gérer continuellement, non seulement des demandes d'adaptation qui sont parfois délicates, parce que les enfants sont toujours très anxieux dans des situations de transition, d'accord? Mais en plus, il y a toujours un des parents qui manque. Et ça ne remet pas en question, même si un beau-père ou une belle-mère qui entre dans la vie de l'enfant, ça peut être des nouveaux adultes très aidants pour le jeune, mais ça reste que quand on est dans la maison de maman, papa manque. Quand on est dans la maison de papa, maman manque.
Oui, mais c'est mieux que d'avoir un des deux parents qui disparaît. Je défends ma résidence alternée. Là,
oui, tout part. À fait.
Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est au niveau fondamental. Donc, l'enfant a besoin de son papa et de sa maman. Le fait qu'il y ait une séparation quand il est petit, ça a des implications. Je ne sais pas, la taille du cortex, le fonctionnement interne. On a vu des choses au niveau biologique?
Pas nécessairement parce que les parents se sont séparés, d'accord? Mm-hmm. Mais parce que les parents se sont mal séparés et ont mal géré la suite. Quand on est dans une situation d'anxiété, d'angoisse, on va aller chercher nos mécanismes de défense, qui sont des mécanismes qui sont encodés dans la partie la plus reptilienne de notre cerveau. Si je dois me batailler, faut pas que je réfléchisse, faut que je me bataille.
Ouais, tout à fait.
C'est les Vikings, d'accord? Ça va être la même chose pour l'enfant. Donc, quand un enfant est dans un environnement qui lui donne l'impression qu'il est en danger, qui lui donne l'impression qu'on peut pas l'aider, qui lui donne l'impression qu'on peut pas le protéger, à ce moment-là, il va maximiser ses ressources reptiloïdes. Et en maximisant les ressources, d'accord, défensives, eh bien, si vous voulez, le sang, au lieu d'aller vers l'ensemble du cerveau pour le développer, il va maximiser, en fait, les ressources de défense, de survie, au mépris de sa belle intelligence, au mépris de son beau potentiel. Et c'est là qu'on voit que, par exemple, des jeunes qui ont été bousculés dans leur vie pendant l'enfance ou l'adolescence, bien souvent, ils vont recevoir, au début de la vingtaine, un diagnostic de trouble de personnalité limite, ce qu'on appelle aussi le borderline. Et en même temps, ces jeunes-là, s'ils évoluent dans un environnement où ils ont un travail dans lequel ils peuvent se réaliser, ils ont rencontré le bon partenaire de vie, ils ont un réseau d'amis qui est plus adéquat que peut-être celui qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes, il arrive à se développer dans un environnement qui lui est sain, eh bien, on voit que le cerveau peut encore se redévelopper et le diagnostic borderline va disparaître dans le courant de la trentaine. Parce que le cerveau aura pris toute l'ampleur de ce qu'il était capable de faire. Mais encore faut-il que, en tant qu'adulte, on voit justement, enfin, que la personne puisse avoir accès à ça. Mais s'il n'a pas ça, on sait que la violence durant l'enfance, et je sais qu'il y a eu un débat il y a 2 ans, je pense, en France, par rapport à l'autorisation ou l'interdiction de la fessée, mais ce que l'on sait, c'est que quand un enfant vit de la violence, qui plus est d'un parent, c'est-à-dire qu'il a une personne proche de lui qui le violente, ça peut être un intervenant qui est proche de lui aussi, eh bien, on sait qu'il va y avoir un cerveau plus petit parce qu'il ne va pas se développer. Et on sait aussi que s'il va y avoir une atteinte, y compris au niveau de l'ADN des neurones qui sont les cellules dans le cerveau. Donc, plus il y a de la violence dans l'enfance, plus le cerveau est impacté et peut conduire malheureusement à des troubles de personnalité ou dans certains cas, et on va le voir plus chez les hommes que chez les femmes, parce que pour nous, les gars, de parler de nos émotions, c'est plus compliqué. Et on va voir que ça va avoir une incidence sur le taux de suicide que l'on va observer chez les hommes dans la trentaine.
Donc je résume. Un enfant qui a été bousculé, on va dire presque endommagé quand il était petit, va avoir des comportements un peu asociaux, un peu borderline, un peu transgressifs autour de la vingtaine, mais va réussir, si jamais il est assez résilient, à compenser et aura son développement vers les 30 ans. Donc en fait, il y a un retard qui peut se faire dans les études, dans la vie professionnelle, mais qu'il peut compenser s'il a ses capacités et si jamais c'est réparé par la suite. C'est ça ?
Tout à fait.
D'accord. Okay.
Mais et si on ne le fait pas, s'il n'y a pas cet environnement-là, ben il va rester avec ses acquis.
Oui.
Et c'est peut-être des acquis d'agressivité.
Il va rester borderline, il va rester un peu délinquant, un peu marginal, il ne s'intégrera pas.
Tout à fait. Et il peut réagir peut-être dans certaines situations d'une manière beaucoup plus non souhaitable que ce qu'on souhaiterait, par exemple.
Alors, toutes ces théories disant que n'importe qui peut être le père, qu'il faut 2 composantes, mais n'importe lesquelles, c'est vrai ? Qu'est-ce que dit la science, l'étude du cerveau sur ces théories ?
Mais c'est très hasardeux. Il faut faire très attention avec ce genre de choses.
On joue parce un peu au domino avec les gens, hein, parfois.
Hein. Oui, c'est certain que si vous avez un enfant qui est abandonné à la naissance, quelles que soient les raisons pour lesquelles l'abandon a eu lieu, c'est certain que les parents adoptifs vont probablement donner beaucoup d'amour à cet enfant-là, d'accord? Donc, quelque part, ils vont pouvoir permettre à cet enfant-là de se développer au mieux. Mais si on a un enfant qui reste dans un centre jeunesse pendant plusieurs années avant d'être vraiment adopté, ou qui voit ses intervenants qui changent continuellement, ou qu'on le change d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil.
Trouble de l'attachement, ça on l'a vu des experts auparavant, ça fait un problème d'attachement.
Exactement, on va avoir des troubles de l'attachement, parce que comment ce jeune-là peut arriver à faire confiance aux adultes autour de lui? On ne le considère pas. Donc, de prétendre qu'on peut déplacer aussi facilement que ça un enfant, il y a des limites malheureusement.
Non mais je veux dire, l'enfant, il lui faut donc 2 composantes, nous sommes d'accord. Est-ce qu'il lui faut fondamentalement un homme, enfin une composante masculine et une composante féminine? Première question. Deuxième question, est-ce que ces composantes peuvent être faites par absolument n'importe qui ou est-ce qu'il y a des conséquences à ce que ce ne soit pas ses parents biologiques?
À ma connaissance, il n'y a pas de conséquences immédiates que ce ne soit pas ses parents biologiques si l'adoption a lieu très très tôt après la naissance. Pour ça, je parlais tantôt d'un abandon. Ouais,
ça, j'ai
naissance.
Entendu ça aussi en étudiant le divorce. Madame, on divorce, madame s'en va, le père disparaît ou le père n'assume pas. Enfin, madame se retrouve seule. Un autre homme arrive, elle le désigne comme père auprès de l'enfant. Et si le lien avec le premier père n'a pas été fait, ça peut marcher.
Ça peut marcher si le père adoptif le considère vraiment comme
ouais,
un
fonctionne,
enfant.
Tout à fait.
Il va chérir.
À la condition
l'amour
que le lien n'ait pas
important.
Été déjà créé avec le premier, le père originel, je crois.
Exactement.
D'accord.
Il peut y avoir de très belles histoires à ce niveau-là. Mais là où il faut faire attention, c'est que quand on a, par exemple, des couples homosexuels, que ce soit 2 femmes ou 2 hommes, ce qu'on a eu plusieurs observations qui ont été faites, c'est que quand les parents de même sexe accompagnent leur enfant, on ne voit pas nécessairement de grandes différences, en fait, qui montrent qu'il va y avoir des lacunes. Au contraire, il apparaît qu'il peut même y avoir de meilleures habiletés. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a parfois de meilleures habiletés sociales chez les enfants qui grandissent justement chez un couple homosexuel. Mais pour ça, la base de tout, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'intégrité,
la stabilité, c'est la sécurité
des uns des autres. Oui. Parce que si l'enfant vit dans un environnement qui est oppressant, qui est anxiogène, il ne peut pas développer, même si c'est son père et sa mère biologiques.
Mais bien sûr. Oui, enfin, je vous ai entendu dire que parfois, la famille moyennement fonctionnelle est parfois préférable à une reconstruction totale.
Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on ne peut pas... Quand on est dans une famille moyennement fonctionnelle, c'est que l'enfant, il a un attachement, même si l'attachement est bousculé par les défis que les parents peuvent rencontrer, je crois que d'un point de vue sociétal, on a plus d'intérêt à outiller ses parents, à accompagner ses parents, nous-mêmes avec bienveillance, parce que ses parents, souvent, ce sont des parents qui, quand ils étaient enfants, ont été bousculés. Donc, il y a une mémoire que eux, ils ont aussi. Donc, je crois que parfois, les intervenants oublient que, oui, ils doivent protéger l'enfant, mais ils doivent aussi aider les parents qui sont d'anciens enfants qui ont été bousculés. Donc, si on peut accompagner les parents et leur offrir un environnement qui leur permette de se développer, pour moi, c'est gagnant parce que l'enfant a fait un lien avec son père et sa mère. Donc, on ne peut pas, un père qui disparaît à la naissance, il y aura probablement moins de trauma chez l'enfant qu'un père qui disparaît quand l'enfant a 5 ans ou quand l'enfant en a 13.
Oui.
Parce qu'il y a un attachement qui s'est fait. Et d'ailleurs, dans notre registre de qu'est-ce qui fait une violence éducative ou non, on considère qu'un abandon parental ou que la disparition ou l'emprisonnement d'un père ou d'une mère quand l'enfant grandit, donc il y a un attachement qui s'est fait, est dommageable pour le jeune.
Et un parent qui empêche l'autre parent d'accéder à l'enfant. Je m'en
c'est
vais,
inquiétant.
Tu ne verras plus tes enfants, qui est une phrase qui, malheureusement, on entend dans les permanences, hein, des retours de ça. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui endommage les enfants.
Tout à fait. Et je crois que beaucoup d'intervenants dans le monde social et même médical n'est pas toujours conscient du
non,
degré.
Non, parce qu'ils pensent qu'il suffit d'en changer. Ils vont dire trouve un autre parent et puis ils pensent que ça ira très bien comme ça.
Tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est nous, les experts, qui devons faire attention justement à bien former nos intervenants de manière à ce que les intervenants tiennent beaucoup plus compte de cet aspect humain qui est là. Parce que parfois, c'est un peu comme si, moi je le vois en tant que clinicien, quand je vois, ici au Québec, on appelle ça la DPJ, la Direction de protection de la jeunesse.
Moi, chez
en France,
c'est
ça s'est appelé longtemps la DAS. Mais souvent, ces personnes-là, par manque de connaissances théoriques, de connaissances cliniques, de sensibilité, ils font le jugement de Salomon inversé. Ça veut dire quoi? On se ramène 3000 ans avant notre ère,
oui.
D'accord? Salomon, on lui présente deux femmes qui se disputent un bébé. Et Salomon les écoute et dit, bon, ben écoutez, on va régler votre problème, on va couper le bébé en deux, vous allez repartir avec la moitié du bébé. Et il y a une femme qui dit, oui, continuons, oui, je veux ma moitié de bébé. Et l'autre dit, ben non, je préfère que mon bébé reste en vie plutôt que de le voir être tué, être coupé en deux, ça n'a pas de sens. Et finalement, Salomon va donner l'enfant probablement à la vraie mère, d'accord, ou tout au moins celle qui voulait vraiment en prendre soin. Et dans ce cas-là, on fait attention. Ce que je vois malheureusement dans ma pratique clinique et dans mes supervisions de psychologues et psychothérapeutes que je peux faire, c'est que dans des situations pareilles, on dirait que l'institution publique n'a pas la sensibilité nécessaire pour voir que c'est souvent le parent le plus toxique qui semble le plus fonctionnel. Parce
oui,
qu'ils n'ont
pas
capacité.
Très bien compris. J'avais écrit un article sur le sujet. Le jugement de Salomon, c'est une allégorie qui n'a pas été comprise par l'institution, qui est persuadée qu'un parent qui veut absolument voir son enfant, quelque part, il veut le couper en deux. Ils n'ont pas compris très bien. Ils pensent que le fait de vouloir voir son gosse, le fait d'être attaché à son enfant, quelque part, c'est pas bien. Il faudrait être presque prêt à l'abandonner pour qu'il nous regarde autrement. Donc oui, c'est une belle image, mais elle a parfois été un peu mal comprise.
Dun 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 dun
Dites-moi, l'homme contemporain, le père moderne d'aujourd'hui, qui est différent de nos grands-parents, qui s'inscrit dans la petite enfance, la science a dit que c'était bien pour l'enfant. Est-ce que c'est bien que, parce que mes grands-pères le faisaient pas, mais moi je vais changer les couches de mon gosse, c'est bien pour lui ?
Moi je pense que oui.
Vous pensez que scientifiquement, la neurologie, la neuroscience a étudié ce sujet-là? Il y a des impacts de l'implication récente, on va le dire, des hommes dans la petite enfance, qui est nouveau en Occident par rapport à ce qui se faisait avant?
Mais j'aurais envie de dire, on ne peut pas encore déterminer spécifiquement... C'est quand on fait de la recherche, quand on essaie de quantifier les choses, c'est toujours délicat de trouver comment... Mais techniquement, si je veux faire une quantification, il faudrait que je trouve 30 situations exactement pareilles pour pouvoir arriver. Mais je n'aurai jamais 30 familles exactement pareilles. Mais je reviens là-dessus, sur les fondements, qu'est-ce qui fait que le cerveau se développe bien ou pas? Ce qui fait que le cerveau se développe bien, la première chose, c'est que l'enfant se sente en sécurité. Si l'enfant se sent en sécurité dans son environnement, que ce soit familial, la crèche ou l'école, son cerveau peut se développer de manière adéquate. D'accord? Si l'enfant se sent insécure, c'est que l'enfant se sent dans une situation qui n'a pas de sens pour lui, son cerveau se développe mal. Si l'enfant vit de la violence, son cerveau se développe très mal. Alors, si je reviens dans la présence, on ne reviendra pas en arrière, les femmes, elles travaillent et c'est correct. Les femmes sont comme ça, ça leur permet de ne pas être dépendantes d'un mari. Si le mari était mort, c'est pas si pire que ça éventuellement, mais si le mari est toxique, il faut qu'elles puissent avoir leur autonomie.
Une grande partie des pères d'aujourd'hui veulent s'impliquer dans la petite enfance. Ils en ont envie, c'est une demande qu'ils ont.
Oui, et quand on fait du pot à pot, tu sais, quand mon fils est né, ma blonde, elle venait d'accoucher, ma conjointe, elle venait d'accoucher, je suis désolé, je reprends des expressions québécoises.
Je vous en prie, j'ai mon écho.
Ma conjointe venait d'accoucher, donc elle était fatiguée, elle avait mal, elle avait besoin de se reposer. Donc, quand ma conjointe ne pouvait pas faire du pot à pot, c'est moi qui faisais le pot à pot. Donc, l'enfant qui a besoin du pot à pot pour libérer de l'ocytocine, et l'ocytocine va créer un attachement
entre deux
personnes.
Le pot à pot, c'est le contact de peau à contact de peau, pour les auditeurs. D'accord.
Oui, tout à fait. Puis j'ai écrit un article pour une revue française, justement, à cet effet-là. Je pourrais vous le remettre, vous pourrez le proposer à vos éditeurs s'ils le souhaitent. Comment, justement, le fait d'avoir un contact corporel est important et permet, justement, la stabilisation, la sécurisation de l'enfant.
Donc, les enfants sont en recherche de câlins en permanence. Ils sont en recherche de leurs parents, de ce contact d'amour. Ils en ont besoin. Quand on est parent, on s'en rend compte. Oui.
Tout à fait. Et puis, c'est parfois triste quand parfois des bébés sont dans, mettons que ce sont des enfants prématurés,
qui sont
obligés d'être dans une couveuse parce que ça assure leur survie. Mais veut pas, il y a des conséquences psychologiques qui vont être présentes et que je peux voir en tant que clinicien plus tard chez les jeunes. Il y a quelque chose à reconstruire chez ces enfants-là. J'ai déjà vu des adultes qui ont besoin de manière régulière, mettons que ce sont des personnes qui sont nées 2 mois avant terme et qui ont besoin à plusieurs moments dans leur vie, même comme adultes, de repasser des périodes avec leurs parents, même en tant qu'adultes, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complété à ce niveau-là.
Et que
l'enfant était dans une couveuse qui a assuré sa survie biologique, mais au niveau affectif, il y a des conséquences. Elle se réchappe. On peut reconstruire, je le redis, notre cerveau se développe jusqu'à 40 à 45 ans, mais c'est certain que si papa peut offrir à certains moments ce pot à pot, même pour lui, ça crée un attachement vers son enfant. L'attachement va faire en sorte que cette relation de complicité-là va être fantastique et va permettre de donner à l'enfant d'autres ressources complémentaires à ce que la maman peut offrir.
See you.
Radio Libre en Périgord.
J'arrive ta mère.